Radico Libre. Vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radico Libre, dont les derniers opus sont disponibles dans la page de l'émission Radico Libre sur le site radioalpa.com. N'hésitez pas à aller voir. On aurait pu vous parler cette semaine de François Fillon. Allons bon. En 2022, la justice l'a reconnu coupable d'avoir employé fictivement sa femme durant des années comme assistante parlementaire. Et il a été condamné à 4 ans de prison, dont un ferme, donc sous bracelet électronique, c'est aménageable. Mais aussi à presque 700 000 euros d'amende pour rembourser le pognon de dingue que s'est fait l'ancien Premier ministre qui se voyait déjà à l'Élysée avec cet emploi fictif. Lundi 25 novembre 2024, après que la Cour de cassation a décidé de renvoyer l'affaire, doit être rendu un dernier jugement pour que la Cour d'appel justifie un peu mieux la peine. Non, il est coupable, ça c'est sûr, c'est acté, c'est bon, mais justifions la peine quand même. Et voilà donc Feu-Feu, notre Feu-Feu national, qui réapparaît dans le paysage médiatique pour indiquer qu'il accepte de payer l'amende en étalant l'ensemble sur 10 ans. Avant le 25, il se fait un petit peu mousser. En clair, le condamné négocie et utilise les médias pour apparaître sous son meilleur profil avant une décision de justice. Eh, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire ça. Et c'est pour ça que François Fillon fait partie de l'élite de la République. On aurait pu vous parler du Black Friday. Oui, vous êtes peut-être au courant, il y a un Black Friday, c'est-à-dire, eh bien, un vendredi noir qui aura lieu le 29 novembre, un jour de solde, encore un. Un jour d'achat compulsif, encore un. Un jour pour compenser les autres où une partie de notre temps est achetée par des mercantis qui veulent accumuler du profit. Il n'y en a pas tant que ça. Tout ce temps perdu qu'on ne rattrape plus, comme disait l'autre. A-t-on besoin de tout ce que nous allons acheter, autrement que pour compenser? Voilà, besoin, hein. Ah non, pas envie, besoin. Eh bien, se poser la question, c'est déjà lutter contre la société de consommation. Et si vous voulez en savoir plus sur d'autres modèles de société, rendez-vous page 6 du nouveau catalogue de la librairie Quilombo, une librairie parisienne située 23 rue Voltaire dans le 11e arrondissement et qui fait dans la vente par correspondance. Pour demander le catalogue ou le consulter en ligne, librairie, bah comme une librairie, -6, Quilombo, Quilombo.org, librairie-quilombo.org. Ah, pour les indécrottables consommateurs que vous connaîtriez, faites des achats à la librairie. Le vendredi 29, voyez, le jour du Black Friday, ils auront comme ça l'impression d'y participer. Je suis pas du tout sûr du plan là, parce qu'il n'y a pas de réduction. Hein. Ben non, on paye le vrai prix. Mince. Bon, on aurait pu vous parler également du match Israël-France de balle au pied qui a eu lieu le 14 novembre. Malgré les fouilles et la présence de policiers, en veux-tu, en voilà, des spectateurs, pas très nombreux, ont réussi à introduire des drapeaux palestiniens, considérés comme des messages politiques, qui n'ont rien à faire dans une enceinte sportive, nous assurent les autorités. Les autres drapeaux étaient bien sûr autorisés, en tout cas le drapeau français et le drapeau israélien. Le libanais non plus, non, bah non. Tout comme les t-shirts à la gloire de l'armée israélienne. Il n'y a pas du tout de message politique derrière ça. De même, des spectateurs avaient réussi à entrer avec des gants coquets, ce qui a permis à des supporters israéliens de s'attaquer à une dizaine de supporters français qui n'avaient pas la bonne couleur. Ah, et pour les racistes israéliens présents, bah ça suffit. Les supporters français, victimes des supporters israéliens, ont été appréhendés par les forces de l'ordre, normal, après avoir été copieusement frappé par les supporters israéliens suscités. Tandis que les agresseurs, eux, que l'on voit nettement agir sous différents angles dans des vidéos qui ont été diffusées cette semaine, n'ont pas du tout eu de problème. Ce qui a permis aux porteurs du t-shirt qui se permet de cracher et de bousculer des supporters français suscités également, le porteur de t-shirt, eh bien, s'est retrouvé au micro d'un journaliste de BFM et là, il a pu dire que tout s'était très bien passé. On aurait pu vous parler de l'UNICEF le mardi 19 novembre, à la veille de la Journée internationale des droits de l'enfant, qui avait lieu donc le mercredi 20 novembre. UNICEF France a publié les résultats d'une consultation de près de 20 000 enfants et adolescents âgés de 6 à 18 ans qui s'exprimaient sur leur vie. On y apprend que près d'un quart des bambins consultés déclarent ne pas manger 3 fois par jour. Qu'ils sont un tiers à avoir subi des brimades, insultes et autres avanies et plein d'autres choses encore, notamment à l'école. La présidente de UNICEF France, l'agence onusienne qui s'occupe des enfants, était sur France Info mardi 19. Et entre autres choses, elle a dit ceci.
Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Vous interpellez le gouvernement? Il faut aider ces enfants, leurs parents?
Alors la première des choses, c'est que dans les stratégies de lutte contre la pauvreté, la nouvelle s'appelle pacte des solidarités, mais ça veut dire lutte contre la pauvreté, il faut absolument que soit priorisée la situation des enfants. Ça n'était pas le cas jusque-là. Nous avons obtenu d'ailleurs l'année dernière qu'il y ait une priorité pour les enfants. Donc il faut que la pauvreté des enfants, elle soit vraiment identifiée par les gouvernements et qu'elle soit pas englobée dans la pauvreté en général. Et il faut que la boussole des pouvoirs publics sur ces politiques, ça soit l'intérêt de l'enfant. Il faut aussi, parce que ça ne se fait pas, il faut aussi, par exemple, que dans les politiques sociales ou les politiques de logement, eh bien, il y ait maintenant une priorité aux familles monoparentales, qu'elles passent avant tout le monde.
Et ça, c'est pas le cas aujourd'hui.
C'est un tout petit peu le cas, mais pas de façon générale. Donc ça, il faut que ça soit le cas. Il faut aussi que dans les quartiers politiques de la ville, il y ait une politique spécifique. Donc il faut, si je puis dire, mettre le paquet, ou plutôt faire un focus sur les enfants, familles qui vivent dans les quartiers politiques de la ville, les enfants qui vivent dans les familles monoparentales, et que le gouvernement, là, agisse vraiment en priorité là-dessus.
Agisse vraiment en priorité là-dessus. Le gouvernement actuel. J'ai l'impression que la présidente d'UNICEF France ne s'adresse pas aux bonnes personnes. En demandant au pouvoir public actuel d'avoir l'intérêt des enfants pour boussole, en leur demandant de donner la priorité aux enfants dans les aides aux populations. Rappelons que les enfants sont des inactifs dans les catégories de l'INSEE, l'Institut National des Statistiques et des Études Économiques. Les inactifs sont les personnes âgées de 15 ans ou plus ou qui ne sont ni en emploi ni au chômage, nous dit l'INSEE. Et des inactifs pour un libéral, ah oui, je rappelle quand même que le gouvernement actuel est libéral, loin s'en faut, on pourrait dire, bah oui, même ultra-libéral, extra, non, juste libéral, c'est-à-dire que sa boussole, c'est l'égoïsme particulier de chacun qui devrait permettre d'accumuler le plus de richesses, une richesse moyenne qui va augmenter, mais qui est accaparée par une petite partie de la population. Et donc, des inactifs pour un libéral, c'est un poids mort qui ne génère pas de profit, qu'on ne peut même pas exploiter comme ressource humaine avant l'âge de 15 ans. Eh oui, parce que plus tôt, c'est pas possible. 15 ans, ce sont des apprentis. Aussi, demander à un gouvernement libéral de droite et d'extrême droite. Ah oui, alors là aussi, si on peut préciser, les idées de l'extrême droite, comme l'essentialisation des étrangers, le nationalisme, sont très présents dans les discours des ministres actuels. De fait, le gouvernement actuel est libéral de droite et d'extrême droite. Donc, demander à ce genre de gouvernement d'aider des inactifs et en particulier des enfants s'apparente à une espèce de provocation. Pour les libéraux et l'extrême droite, les aides ne peuvent pas être inconditionnelles. L'enfant doit pouvoir justifier de l'intérêt à investir en lui, pour les libéraux. Eh oui, le fameux retour sur investissement, ça sert à quoi que je t'aide ? Puisque un libéral ne fait rien sans avoir derrière quelque chose qui lui rapporte. C'est le but, je rappelle, l'égoïsme de chacun qui permet de générer le plus de profit, le plus de richesse possible. Alors pour tous ceux qui se diraient « Oh là là, mais celui-là, il est bien atteint. Le libéral, c'est pas du tout ça, c'est celui qui est pour la liberté. » Je vous conseille de relire les auteurs libéraux, les Adam Smith et compagnie. Et vous verrez que malheureusement, je ne dis pas que des bêtises. Donc l'enfant doit pouvoir justifier d'une espèce de retour sur investissement. Et puis, pour les racistes d'extrême droite, il faut qu'ils soient de la bonne nationalité. Donc ça fait quand même beaucoup. Inclusion sociale et protection des personnes, dans le budget 2024, c'est 14 milliards. 14 milliards d'euros, on pourrait dire, ouais, il y a quand même du pognon, bon, sur 818. Eh bien, sur ces 14 milliards d'inclusion sociale et protection des personnes, c'est-à-dire les aides à la population, pour essayer de générer de la cohésion sociale et de protéger ceux qui sont, entre guillemets, les plus faibles, eh bien, sur les 14 milliards, il y a 12,5 milliards pour la prime d'activité, qui compense des salaires de misère. Il reste 1,5 milliard pour les autres aides contre la pauvreté, dont 200 millions pour le pacte de solidarité dont parlait Madame de l'UNICEF. Sur un budget de 818 milliards, les 1,5 milliard d'aides qui ne sont pas liées à une activité salariée représentent 0,2%. Dans le même temps, le même pays dépense près de 700 millions dans le programme Stratégie économique. dont 20 millions pour l'économie sociale et solidaire. Pour le reste, ça sert à promouvoir et accompagner les stratégies de l'économie capitaliste. Ensuite, à ça, il faut ajouter les allègements de cotisations qui grèvent le budget de la sécurité sociale, mais permettent au secteur privé en particulier de se faire pas mal d'argent. Les aides fiscales aux entreprises, on peut aussi ajouter les subventions directes. La boussole des libéraux en territoire capitaliste ne sera jamais l'aide aux inactifs. Fussent-ils aussi irresponsables, c'est pas de leur faute quand même, mais pour un libéral, tout est de votre faute. Fussent-ils aussi irresponsables que des enfants, la boussole restera à jamais le profit. Dans son discours, la dame de l'UNICEF devrait pointer du doigt la nécessité de changer de modèle économique pour aider les enfants à vivre mieux. À mon avis, le changement de modèle économique, c'est le meilleur moyen. On aurait pu vous parler également des entrepôts géants qui s'installent un petit peu partout en France au détriment des terres agricoles, mais on le fera la prochaine fois. En tout cas, les laboratoires Pierre Fabre implantent une nouvelle plateforme logistique à Muret. Devinez où c'est ? C'est sur l'autoroute A69. Eh ben oui, l'autoroute Pierre Fabre, en fait, elle est faite pour eux, puisqu'ils sont à Castres, et comme ça, ça leur permettra de transférer leurs produits jusqu'à Toulouse, pas loin, et hop là, je file vers le reste du monde. On en reparlera, puisque les entrepôts logistiques, les entrepôts géants qui servent à entasser un certain nombre de produits, ce qu'on a appelé les entrepôts Amazon, mais qui peuvent servir à n'importe quelle autre boîte, eh bien, il y a un certain nombre de projets en Sarthe. Mais on a finalement préféré vous parler des arbres. Oui, tout simplement. Un écureuil surnommé Le Chat était calé dans un arbre de l'avenue Bollé depuis mercredi 23 octobre pour éviter l'abattage de tous les arbres de l'avenue Bollé. Il a été arrêté au pied de l'arbre en question mercredi 20 novembre pour avoir empêché des travaux. Les opposants à l'abattage des arbres de l'avenue Bollé affirment qu'ils défendent plutôt le vivant. Eh bien, pour les autorités, il a juste empêché des travaux. Détruire des arbres, détruire du vivant. Oui, mais si ça empêche des travaux, ah d'accord, détruire pour reconstruire, puisque l'idée... On va planter encore plus d'arbres sur l'avenue Bollé. Oui, des tout petits. Alors qu'il y en avait des plutôt grands. Mais que faisait ce personnage sur l'avenue Bollé ? Eh bien...
J'arrête ! C'est la minute des enfants. Aujourd'hui, le Z.
Le Z comme ZAD. La ZAD ou zone à défendre, c'est un campement visant à empêcher la construction de projets qui détruisent la nature, par exemple un aéroport ou un pipeline. Les participants plantent des arbres fruitiers, sèment des légumes, construisent des cabanes, partagent plein de bonnes choses et bloquent les camions et les machines. Mais ça peut vous emmener en garde à vue. En juin dernier, nous avions rencontré Michel qui nous présentait la démarche du GNSA, le groupe national de surveillance des arbres, venu expertiser les arbres de l'avenue Bollé qui nous étaient présentés comme très 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 abîmés par la municipalité, quasiment même prêts à mourir.
On est sur l'avenue Bollé, il est environ 12h30 ce mercredi. Et il y a quelqu'un qui est en train de regarder les arbres avec un t-shirt GNSA. Qu'est-ce qu'il peut bien faire ?
Alors, eh bien, ce quelqu'un, il s'appelle Thomas Braille et c'est le fondateur justement du groupe national de surveillance des arbres. Et depuis 2020, je crois, c'est l'année où il a campé pendant 2 semaines dans un platane en face du ministère de l'Environnement pour défendre les arbres d'alignement et les surfaces naturelles en général. Eh bien, il défend les arbres et nous, nous l'avons appelé afin qu'il nous donne un diagnostic de ce bel alignement d'arbres qui doit disparaître donc au profit des crinolines. La ville, enfin les services de la ville ont déclaré que 80% de ces érables étaient dans un état très moyen, quelques-uns seulement, 20% bien portants, les autres dépérissants. Et surtout, ces mêmes services disent que dans 10 ans, tous ces arbres-là seront morts, comme s'ils avaient une boule de cristal.
Écoutons maintenant justement Thomas Braille, qui était venu expertiser ces arbres pour tester leur viabilité et qui nous présente le groupe national de surveillance des arbres.
Alors c'est GNSA, donc c'est groupe national de surveillance des arbres. Et c'est une association qui est reconnue d'intérêt général par les services de l'État, une association nationale qui regroupe des lanceuses et des lanceurs d'alerte avec des groupes locaux partout en France, plus de 50 antennes en France. Et puis voilà, et des juristes et des personnes qui travaillent pour la protection des arbres et surtout des grimpeuses et des grimpeurs qui grimpent dans les arbres quand les chantiers ne sont pas justifiés, quoi.
Donc ça veut dire groupe national de surveillance des arbres.
Tout à fait.
Vous les surveillez pourquoi ?
Ben, on les surveille parce que l'homme a la main, j'ai envie de dire, un peu forte sur les arbres et la main lourde. Et du coup, ben, nous, on est là pour dire aujourd'hui que clairement, en 2024, on ne peut plus se priver du moindre arbre. Donc après, on aura toujours besoin du bois. Ça, c'est encore notre débat, c'est notre question. Voilà, il y en a qui se chauffent au bois, on a des meubles. Mais par contre, tout ce qui est les arbres urbains, les arbres en ville, qui ont tout leur rôle à jouer, ceux-là, en fait, c'est pas des arbres qui ont une vocation économique. Donc ceux-là, il faut vraiment les garder parce qu'ils jouent un rôle important dans le rafraîchissement des villes, dans la décarbonation et dans l'oxygénation. Donc, des sujets qui ont 60 ans aujourd'hui, si on fait rien, en fait, eh bien, on n'arrivera plus à avoir des beaux sujets comme ça, parce que les étés étant de plus en plus caniculaires, les jeunes arbres qu'on plante aujourd'hui, ils meurent, en fait. Voilà.
Alors, puisqu'on est avenue Bollée, il y a l'idée pour les chronolignes de couper à peu près 200 arbres. Alors, 200 arbres sur l'avenue Bollée, mais aussi 200 autres sur d'autres chronolignes. Vous avez regardé l'état de ces arbres, qu'est-ce que vous en dites ?
On en a expertisé 85%, il nous en reste une dizaine à faire. Ces arbres-là, malgré le fait qu'ils aient pris quelques coups par les pare-chocs des voitures quand elles se garent, ça c'est clair. Mais en gros, on s'aperçoit qu'ils ont un bon recouvrement cicatriciel, c'est-à-dire qu'ils referment les plaies. Il y a vraiment des bourgeons latents qui sortent partout, ça veut dire qu'ils sont efficients, ils sont résilients, ils ont des belles canopées, ils sont très hauts, ils rafraîchissent. Ils ont un système racinaire fort qui leur permet de passer les étés caniculaires. Et ce ne sera pas le cas des jeunes arbres qu'on va planter aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit. Quoi, voilà.
Donc il est dit qu'ils sont à peu près 80%, c'est en tout cas ce qu'annonce la municipalité, 80% de ces arbres seraient à abattre parce que malades ou prêts à mourir. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Bah, écoutez, moi je suis venu ici parce qu'on n'a pas de diagnostic de la mairie, on n'a aucune expertise, rien. Et jeter des choses comme ça, c'est regrettable. Nous, moi, si je viens, c'est pour faire un diagnostic. Et donc, c'est mon métier. Et bon, après, monsieur Le Foll, moi, j'aimerais bien rentrer en discussion avec lui. Je ne suis pas là pour me braquer contre tous les maires. Mais quand j'entends dire que ces arbres-là, il leur reste 10 ans à vivre, je pense que dans 10 ans, nous, on aura très chaud et que les arbres qu'on sera encore là. Donc, ces arbres-là, ils vont vivre encore des centaines d'années. Ils sont encore jeunes pour 60 ans. Hein. Des arbres à 60 ans, c'est des arbres qui sont encore jeunes. Donc ils ont tout leur rôle à jouer. Et on ne peut pas sortir la boule de cristal et annoncer des choses comme ça aujourd'hui. C'est pas possible.
On ne peut pas. Et puis de toute façon, on ne saura pas ce qu'il en est. Puisque mardi 19 novembre, c'était le début de l'abattage de ces arbres. Et jeudi 21, bah, c'était terminé. Les entreprises ont travaillé au debout de l'avenue, protégées par les polices municipales et nationales. Des uniformes pour protéger la destruction du vivant, tout un symbole. Deux interpellations, une opposante et le chat. 199 arbres abattus, voilà le résultat d'une sombre semaine. Et pourtant. Au fait, on fait ça pourquoi ? Eh bien pour les chronolignes, des lignes de bus rapides qui permettront de gagner 10 minutes en moyenne. C'est pas moi qui le dis, c'est le site municipal qui annonce, avec un gros encadré, 10, le chiffre qui va vous attirer l'œil, 10 minutes de gagner. 10 minutes sur un trajet qui va de Gazonfier jusqu'au centre-ville. Ce qui rendra attractif l'offre de transport en commun. Ah ben c'est sûr. Mais en même temps, la place de la bagnole sera toujours aussi importante puisque l'avenue Bollée pourra être parcourue dans les deux sens en voiture. En clair, les aménagements des chronolignes sont aussi un moyen de garder la place des bagnoles en ville. Et en même temps, avec les chronolignes, la ville du Mans s'épargnerait notamment une ZFE, une zone à faible émission. Donc un territoire dans lequel certains véhicules à moteur thermique ont des restrictions de circulation. Des restrictions qui touchent forcément les plus faibles économiquement, puisque la vignette critère qui permet de définir ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas circuler est basée entre autres sur l'âge de la bagnole. En Porsche Cayenne récente, vous circulez partout. Ouais. Et tant pis pour la quantité de ressources nécessaires à la production de ce genre de véhicule. Non, c'est une voiture propre. Pas de ZFE. Au Mans, une ville plus propre, en tout cas, qui ne dépasse pas les seuils en termes de polluants liés aux véhicules. Voilà autant de points positifs pour la réélection de l'équipe municipale actuelle. Mais pas forcément pour l'avenir des êtres vivants. C'est encore un petit peu court-termiste tout ça. Pourtant, on a de la part de la ville du Mans une charte de l'arbre. Une charte de l'arbre qui date de 2023 et qui s'appelle le plan Canopé. Le plan Canopé, c'est tenter de sauver un maximum d'arbres en ville.
Et de fait, il y avait déjà un document qui nous montrait des armes tout rabougries en ville. Mais heureusement, avec les chronolignes, eh bien, il y aura des beaux arbres. Quand ? Dans 60 ans, hein, puisque ceux qui étaient plantés là et qui ont été abattus avaient 60 ans pour retrouver les mêmes, il faudra la même quantité. Oui, parce qu'en territoire libéral capitaliste, on a l'impression que tout peut s'accélérer, mais pas la pousse des arbres, pas la pousse des gens, pas le temps qu'il nous faut pour devenir adulte, par exemple. Ce serait bien qu'il y ait plus d'adultes dans certaines pièces. Et dans l'édito qui est fait par M. Stéphane Le Foll, maire du Mans, président de Le Mans Métropole, ancien ministre, oui, signé comme ça. Tiens, ancien ministre de quoi déjà ? Eh bien, de l'agriculture et des forêts. Ah, comme quoi. La place de l'arbre dans l'espace public est un sujet majeur et la ville du Mans répond à cet enjeu par une politique engageante et ambitieuse. Voilà ce qu'on peut lire dans son édito. C'est le premier paragraphe. Et le dernier ? Cette mobilisation se traduit par une série d'actions concrètes visant l'amélioration de la place de l'arbre en ville, favorisant le retour de la biodiversité, permettant à la ville de s'adapter aux évolutions climatiques en augmentant sa résilience aux événements naturels. Et bien pour tous les oiseaux, pour les chauves-souris, pour les insectes qui habitaient dans les arbres de l'avenue Bollée, je ne sais pas si la résilience va être si facile, puisque là il ne reste que des souches que l'on ne voit même pas, puisque devant ont été mis des espèces de plots blancs et rouges qui permettent d'éviter que les gens aillent se faire mal en se cognant contre les souches en question. Voilà tout ce qu'il en reste. Alors la mobilisation qui favorise le retour de la biodiversité et de la place de l'arbre en ville, je ne sais pas où elle a vraiment lieu. Quand la main gauche ne sait pas ce que fait la main droite ou inversement, ça peut devenir compliqué pour une ville. Mais là, il y a quand même des priorités pour cette ville, en l'occurrence, continuer à être attractive. Attractive pour qui ? Ben, surtout pour le côté économique. Les opposants s'étaient pourtant bien battus, mais la justice n'a pas suivi. Après plusieurs manifestations, une pétition qui a réuni près de 9000 signatures, des associations qui forment le collectif contre l'abattage des arbres de l'avenue Bollée, avaient déposé un référé suspension qui fut examiné le mardi 22 octobre par le tribunal administratif de Nantes. Et une semaine plus tard, ce tribunal n'a pas permis de suspendre les travaux, les a autorisés. Pas de référé suspension. Il y a un autre référé sur le fond qui devrait être examiné, mais l'objet, les arbres, n'est plus présent. En face, la municipalité avait fait feu de tout bois. On a donc la charte de l'arbre qui n'a pas été remise véritablement au devant de la scène pour expliquer pourquoi il fallait absolument abattre ces 200 arbres, et il y en a 200 autres qui devraient être abattus sur les autres chronolignes. Non, mais elle a fait feu de tout bois pour vendre le projet à la population. Alors ne parlons pas des réunions publiques obligatoires où le projet est acté. Ah oui, non, on ne revient pas dessus, hein. Mais on demande à la population présente de quelle couleur doivent être les bacs à fleurs, par exemple. Pour le grand public, une exposition avait aussi été présente durant de nombreux mois dans le hall de la mairie, avec des photos de l'avenue Bollée en plein hiver, donc des arbres sans feuilles, un ciel gris, et à côté, des vues générées par ordinateur, du futur radieux après la fin des travaux. Vraiment après la fin des travaux. On voyait des arbres bien touffus, bien portants, bien feuillus, puisque le ciel bleu et les habits portés par les badauds fictifs nous montraient qu'on était en été. Mais en tout petit, on pouvait lire que c'était... Ah, les images montrées 15 ans après les travaux. Parce que les arbres qui vont être plantés, on ose espérer qu'ils vont survivre, mais ils n'auront pas du tout la tête de ce qui était présenté. Espérons que d'ici là, les arbres plantés aient survécu au climat qui s'abîme, de notre impéritie d'humains responsables, de notre volonté d'accumuler toujours plus et d'aller toujours plus vite. La lutte n'est pas terminée, il reste des arbres à sauvegarder un petit peu partout. Et peut-être essayer de voir comment, pour la prochaine municipalité, on pourrait véritablement mettre au centre de l'action politique, de l'action de la municipalité, le vivant et pas l'économie. Nous vous invitons aussi à la prochaine assemblée du collectif lundi 25 novembre à 18h30 à la maison des citoyens citoyennes au Mans, donc c'est place des Comtes du Maine. Voilà ce qu'écrit sur Démosphère le collectif dont nous venons de vous parler. Donc une prochaine réunion lundi 25 novembre à 18h30 pour diffuser les informations et agir. Et il précise, nous sommes le vivant qui se défend. Eh oui, défendre le vivant plutôt que l'économie mortifère capitaliste qui a pour but simplement d'accumuler du profit, forcément c'est un autre projet de vie. Le collectif de défense des arbres de l'avenue Bollée, vous pouvez le joindre sur collectif-arbre-bollée, collectif au singulier-arbre au pluriel-bollée @anche.no. Et il y a toujours la pétition avec tout un argumentaire qui est assez intéressant à lire pour savoir, pour ceux qui ne le savaient pas, eh bien pourquoi étaient défendus les arbres, sont défendus tous les arbres et étaient défendus les arbres de l'avenue Bollée. agir.greenvoice.fr, agir.green comme la couleur verte, voice comme la voix en anglais, agir.greenvoice.fr, et vous cherchez arbre bollé dans le petit cadre recherche et vous tomberez sur la pétition « Sauvegardons les 200 arbres de l'avenue Bollée au Mans » en espérant que les autres ne soient pas abattus, ouais, parce que sinon ça va être long quand même pour en retrouver des arbres de 60 ans. Ah ben 60 ans. Il nous reste quelques instants pour vous dire qu'il se passe des choses. Malheureusement, samedi 23 à 14h, il y a encore une manifestation de solidarité avec les peuples palestiniens et libanais qui se font taper dessus, d'abord par une partie de leurs autorités respectives. Le Hamas et le Hezbollah ne sont pas vraiment des démocrates avec lesquels on peut discuter, mais en plus par un pays qui est dirigé par la droite et l'extrême droite. Tiens, ça me rappelle d'autres pays. En l'occurrence, Israël, dont le Premier ministre se retrouve avec un mandat d'amener aux fesses. Pourquoi ? Parce que y a un petit peu crime contre l'humanité, là. Alors, du coup, il va peut-être falloir s'arrêter. Eh ben non, il ne s'arrête pas, il continue. Et d'ailleurs, la CPI, la Cour pénale internationale, devinez ce qu'elle est ? Antisémite, ouais, c'est tout facile. À partir du moment où vous critiquez le gouvernement israélien, vous êtes antisémite. Donc, manifestation de solidarité avec les Palestiniens, Palestiniennes, Libanais, Libanaises à 14h place de la République, comme depuis octobre 2023. C'est le samedi 23 novembre à 14h. Espérons que ça soit la dernière. Le 27 novembre 2024 à 18h30, place des Comtes du Maine, vous allez à la maison des citoyens, citoyennes. Ah ouais, il faut descendre les escaliers, et puis là, c'est juste sur votre droite. Réunion du collectif sartois Stop Amazon et son monde, ni ici ni ailleurs. On en parlait tout à l'heure, il y a des projets d'entrepôt un petit peu partout dans le département de la Sarthe. Eh bien, ces entrepôts vont générer des difficultés, vont générer de la pollution, vont générer des transports, vont générer autre chose que du vivant. Tout ça, pourquoi ? Rappelons-nous, faire du commerce avec le reste du monde. En l'occurrence, là, toujours la même chose, la liberté, mais la liberté économique seulement. Mercredi 27 novembre 2024, pour en savoir un peu plus sur ce qu'il se passe dans notre département à propos des entrepôts logistiques, et puis pourquoi pas s'impliquer. Et dimanche 1er décembre, on vous le dit déjà, à 18h, à la Maison des citoyens, citoyennes, toujours pareil, c'est toujours place des Comtes du Maine, projection du film de Yanis Youlountas, « Nous n'avons pas peur des ruines, nous portons un monde nouveau dans nos cœurs », et ça sera en présence du réalisateur. C'est l'occasion de s'informer, d'échanger sur les luttes autogestionnaires et solidaires en Grèce et chez nous aussi. Ça se passe donc à 18h. Nous n'avons pas peur des ruines. Projection du film en présence du réalisateur. Le 1er décembre, 18h, Maison des citoyens, citoyennes, place des Comtes du Maine. Voilà, écoutez, comme on en a terminé, on va tout simplement s'éclipser. Mais avant de s'éclipser et d'essayer de répondre au téléphone, eh bien, on vous dit tout simplement, allez, au revoir.